Henri Rorda von Eysinga, Les effets de l'éducation moderne. Les écoliers doivent constamment rester assis, c'est-à-dire à peu près immobiles. Et cela ne peut avoir sur leur développement général que des effets déplorables. Les pédagogues procèdent comme s'ils croyaient que pour cultiver l'esprit de l'enfant, il faut provoquer le continuel affaissement de son corps. Ce ne sont pas les deux maigres leçons de gymnastique qui se donnent chaque semaine qui prouveront le contraire de ce que j'avance. Dans ces leçons comme dans les autres, le maître dit à ceux qui bougent, restez tranquilles. Ou plutôt, il articule d'une voix forte, silence dans les rangs. Oh! Ces rangs d'une rectitude parfaite, d'où, à un signal donné, 20 jambes parallèles sortent en même temps. Sans doute, à notre époque, on parle beaucoup des bienfaits de l'éducation physique. Mais c'est dans les livres, les revues et les journaux qu'on en parle. Je connais des écoles où pour les élèves de 10 ans, comme pour les autres, l'histoire est une branche essentielle. Et la gymnastique, une branche secondaire. Content de ne pas avoir oublié tout son latin, on répète mens sana in corpore sano. Mais on ne demande l'embellissement des âmes qu'à des cours d'histoire, de morale ou d'instruction civique, et à des résumés de littérature. Et voilà pourquoi, madame, votre fille, qui est myope, maladive, disgracieuse et sans joie, n'est pas muette sur le chapitre de la Pléiade, ni sur celui des empereurs romains. J'ai dit aussi que sur les bancs de l'école, l'enfant s'ennuie. Il s'ennuie nécessairement parce que son devoir est d'écouter durant 3, 4 et parfois 5 leçons consécutives. Or, il lui est tout à fait impossible de rester si longtemps attentif à ce qui se dit en classe. Tout ce qu'il peut faire, c'est de garder une attitude correcte. Et, en attendant le moment de la récréation, trop courte, il rêvasse. On comprend que l'effort d'écouter est considérable si l'on imagine la série de frottements et de chocs dont on entrave la fuite de sa propre pensée pour suivre celui qui parle. Quelle que soit la valeur de cette comparaison, l'inattention habituelle des écoliers est un fait certain. Le silence qui remplit parfois certaines salles d'école peut faire illusion, et le passant qui, dans ces moments-là, pourra du dehors observer discrètement les profils attentifs des élèves, sera émerveillé, à moins que la tranquillité absolue de ces êtres jeunes ne lui soit pénible. Mais que cet observateur attende une minute ou deux. Si un crayon tombe sur le plancher, si quelque éternuement se produit, aussitôt des têtes se tourneront, des gaietés contenues seront sur le point d'éclater. Que les événements les plus minuscules puissent distraire ces enfants, cela ne montre-t-il pas combien peu ils sont intéressés par ce qu'ils écoutent? Le malheur est qu'on ne s'applique pas à émerveiller l'écolier. On y parviendrait si facilement. Qu'on lui donne l'illusion que la vie est belle, ce sera moins dangereux que de lui persuader insensiblement que le travail est une chose ennuyeuse. Pour l'armée contre la paresse et tous les autres vices, on lui enseigne très tôt la kyrielle de ses devoirs. Mais est-ce bien utile? Comme on ne s'applique pas à le prendre tout entier par des exercices ou des jeux attrayants, mais qu'il est ordinaire inactif, il résistera mal à certaines sollicitations mauvaises. L'enfant s'ennuie encore pour cette raison que toute sa vie d'écolier se passe dans une salle monotone. Ce décor a pour lui quelque chose de terriblement déjà vu, On s'efforce d'égayer les murs en y accrochant quelques tableaux, des champignons comestibles, les oiseaux utiles, ou peut-être le golfe de Naples. Mais ces planches perdent bientôt tout leur prestige. Je dois reconnaître aussi que le maître fait parfois circuler dans les bancs quelques échantillons du monde physique, destinés sans doute à prouver que ce monde existe. Mais l'intention de ces choses dans le royaume du mot est très rare. Et d'ailleurs, on se lasserait de regarder des échantillons comme on se lasse vite des côtés. Ceux qui ont pour mission de nous instruire et de nous révéler l'univers commencent par nous enfermer durant des années dans un local d'où l'on n'aperçoit rien de ce qui est à la surface du globe. Ajoutons que les bons élèves sont ceux qui ne regardent pas par la fenêtre. Ce qu'on présente à l'enfant, c'est l'univers en formule, c'est l'immensité en petit. Des années durant, on lui adresse un long et monotone discours. Le mot a pour lui cet effet de décolorer la vie. En classe, l'enfant s'habitue à tricher. Je crois que la plupart de ceux qui enseignent ont souvent le désir sincère d'instruire d'une manière bienfaisante les êtres jeunes qu'on leur confie. Mais ce dont je suis sûre, c'est que tous, durant leurs leçons, consacrent une partie notable de leur temps à autre chose. Ils doivent interroger leurs élèves à seule fin de savoir si ceux-ci méritent la note 8 ou la note 9, la note 6 ou la note 5,5. On pourrait se demander ici si ces chiffres ont quelque signification. On découvrirait bientôt que, pour des raisons nombreuses, ils sont le plus souvent indépendants de ce qui, dans l'esprit de l'écolier, est profond et durable. Et l'on sourirait d'apprendre que les moyennes respectives de deux élèves qui n'ont pas une qualité commune peuvent fort bien ne différer qu'à partir de la seconde décimale. Je reconnais que le système que l'on adopte pour apprécier le zèle des écoliers est sans importance. Toute la question est de savoir s'il est vraiment utile de classer ceux-ci en bons et en mauvais élèves. Ces derniers sont toujours les plus nombreux et ils constitueront la partie la plus considérable de la nation. Il faudrait donc que l'école parvînt à les préparer à la vie, aussi bien que leurs camarades plus studieux. La société a d'ailleurs des jugements qui ne concordent pas avec ceux des pédagogues. Mais ce n'est pas le moment d'insister. Quoi qu'il en soit, l'écolier, cependant qu'on l'interroge, essaie de donner le change sur son ignorance réelle. Les cas de tricherie proprement dites sont très fréquents. Et puis, il y a tant de façons honnêtes de tricher. Cet élève était inquiet ce matin en se rendant en classe. Certaines phrases qu'il avait lues, sans doute un peu distraitement, et sur lesquelles il aurait peut-être la malchance d'être questionné, n'avaient pas pour lui un sens très clair, et il s'exposait à affirmer le contraire de ce qu'il devait dire. Mais il ne songeait pas que les maîtres, dupes ou non, doivent souvent s'en tenir à des apparences. Au moment critique, il articula sans embarras visible des mots qui avaient l'air d'exprimer des idées bien comprises. Et la bonne note qu'il obtint ramena la tranquillité dans son âme. L'affaire est dans le sac, aurait-il pu penser en regagnant sa place. Les jours de composition en classe, le maître décide-t-il que seuls les élèves qui croient avoir compris la question qu'ils vont traiter feront le travail. Non, car il n'a pas seulement pour but de rechercher quels sont ceux qui ont besoin d'être aidés. Il doit donner une note à chacun. L'élève, qui est sûr d'avance de faire une composition exécrable, doit se mettre à la besogne comme les autres. Dans le cas favorable, où il ne jette pas des coups d'œil furtifs vers la feuille de son voisin, il essaie, en réunissant les pitoyables lambeaux de science restés dans sa mémoire, de faire croire à son professeur qu'il sait quelque chose. Entre deux notes très basses, il choisit la moins mauvaise, et pour l'obtenir, il couvrira autant de lignes que possible de son galimatia malhonnête. Lorsqu'un écolier est puni d'une mauvaise note pour ses réponses stupides, ceux parmi ses camarades qui n'auraient pas répondu mieux que lui, mais qui ont la veine de ne pas être interrogés ce jour-là, lèvent-ils la main pour apprendre au maître qu'il mérite la même appréciation sévère? Question candide. Avoir de la veine ou ne pas en avoir, telle est la question qui, pour les écoliers, est capitale. En résumé, on fait très tôt comprendre à l'enfant qu'il a intérêt à cacher son ignorance. C'est l'engager à tromper ses maîtres. 3 fois sur 4, il n'hésite pas. À propos de tricherie, je dois signaler la façon réjouissante dont les écoliers de tout âge préparent leurs examens. Le candidat doit être examiné par un jury compétent par définition, qui appréciera l'état de ses connaissances en termes décisifs. Or, grâce à un entraînement ad hoc auquel il se livre durant les semaines qui précèdent le jour de l'épreuve, il se présente devant ses examinateurs autre qu'il n'est. Un mois plus tard, le danger passé, il se retrouve dans son état normal, c'est-à-dire qu'il s'est débarrassé de toute l'inutile science dont il s'était orné l'esprit pour réussir. Or, il est bien clair que si l'examen devait avoir une signification, s'il portait sur le savoir réel des candidats, sur les qualités durables de leur esprit, on ne le ferait pas subir à des jeunes gens qui, depuis 2 ou 3 mois, assez bien renseignés sur le total des questions qui pourraient leur être posées, se préparent à y répondre d'une manière brillante. En d'autres termes, les examens seraient très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et dire que partout, on prend des précautions contre les tricheries des écoliers. Mais l'école dispose d'un moyen plus sûr pour enlever à l'enfant sa sincérité. Chaque élève, dans le cours de ses études, entend ses divers professeurs traiter les sujets les plus variés, les sujets dont il aura lui-même à dire quelques mots lorsqu'on l'interrogera. Ainsi, toutes les semaines, il débite en classe des propositions erronées et d'autres qui sont exactes. Mais sa conviction n'anime pas davantage celle-ci que celle-là. Seule, parfois, la note qu'il obtient lui permet de reconnaître si ses réponses furent satisfaisantes ou mauvaises. Et en fait, quelle bonne raison ce gamin a-t-il de situer Pernambouc sur la côte brésilienne plutôt que sur les confins du Sahara, si, depuis 2 ou 3 mois, il n'a plus entendu parler de cette ville? Presque toutes les vérités qu'on l'oblige de connaître sont pour lui incontrôlables, car si ses maîtres lui donnent de mauvaises notes lorsqu'il ne sait pas repérer les phrases qu'il a lues dans ses cahiers, il tolère, par contre, qu'il énonce des propositions de l'exactitude desquelles il ne sait absolument rien, et d'autres dont il ne comprend même pas le sens. Il doit croire ce qu'on lui dit et ne pas l'oublier. À l'école, le vrai et le faux n'éveillent pas dans l'enfant des sentiments contraires. Ce qu'il affirme lui est indifférent. Et parce que son verbiage d'écolier est à peu près sans relation avec ses préoccupations habituelles, avec sa pensée intime, avec sa vie profonde, ses paroles, plus tard, exprimeront rarement ce qu'il aura lui-même vu ou senti. Avec une aisance toujours plus grande, il trouvera les phrases neutres qu'on attend de lui comme de chacun. causez un instant avec ce notaire ou avec ce directeur d'usine. Si vous abordez quelques questions générales, ne touchant pas de près à leurs petites affaires, ils émettront peut-être un avis différent du vôtre, et vous aurez un instant l'espoir d'entendre une objection nouvelle à vos idées. Mais si vous défendez votre opinion avec fermeté, ces messieurs deviendront tout de suite conciliants et ils vous laisseront bientôt voir qu'au fond, ils s'en fichent. Phénomène curieux, en faisant débiter à ses élèves un nombre trop considérable de vérités, l'école prépare des hommes enclins aux mensonges. Ce n'est pas dans les moments mêmes où il a quelque chose à dire que l'enfant apprend à bien parler. Ses maîtres ne considèrent pas seulement son langage comme un moyen d'expression, mais plutôt comme une chose intéressante en soi, dont il faut faire une étude à part durant des années, en des moments de la semaine fixés par l'horaire de l'école. Les formes verbales et les règles nombreuses qu'il croit devoir lui faire connaître, il les lui enseigne à l'écart, pour ainsi dire, et à la file. Il les appliquera peut-être un jour. Donc, nous apprendre à bien parler, ce n'est pas nous faire corriger les mots que nous employons spontanément lorsque nous voulons dire le phénomène qui nous a frappés, ou bien nous soulager d'une question obsédante. C'est nous enseigner des expressions toutes faites que l'école garantit conformes à l'usage. Or, comme on nous apprend très tôt la langue de nos aînés, nous avons une forte tendance à adopter, avant tout examen, les mêmes catégories qu'eux et exprimer les mêmes opinions. Tel mot qu'on nous conseille équivaut à un jugement qu'on nous suggère, et cela sans que rien nous mette en garde contre cette propagande discrète. En nous transmettant telles locutions anciennes, on enracine en nous de vieux respects dont quelques-uns nous fussent demeurés étrangers si l'on s'était simplement appliqué à nous faire connaître les choses et les gens de notre époque. On pourrait dénaturer assez drôlement ce dernier passage. Je sais fort bien qu'une génération, inévitablement, parle à peu près comme celle qui l'a précédée, à très peu de choses près si l'on veut. Mais je prétends que si l'on ne se hâtait pas de donner une forme définitive à la pensée de l'écolier, si dès les premiers jours on ne lui présentait pas en bloc un vocabulaire tout fait, si on ne lui suggérait pas des comparaisons classiques et des classifications très contestables, si on ne lui proposait pas les fatidiques sujets de composition qui ennuyèrent déjà nos grands-pères, je prétends qu'alors, le langage de l'enfant traduirait avec plus de fidélité ce qu'il a réellement senti. Il y a des maîtres de composition qui, après avoir proposé comme sujet à leurs élèves un coucher de soleil, ajoutent « Ne faites pas de phrases, dites simplement ce que vous avez vu. » Mais l'enfant ne tient pas compte de ce bon conseil. Il se méfie. Ce qu'il a vu se résumerait en trois lignes. Or, il se dit qu'une telle concision lui vaudrait une très mauvaise note. Peut-être même y verrait-on une intention irrévérencieuse. Donc, prudemment, le bon élève se rappelle tant bien que mal des phrases lues par qu'il est son coucher de soleil en trois ou quatre pages. Afin qu'il retienne la règle concernant la conjonction « ni », on fait dire à des gamins de 10 ans « ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux ». Tout de suite après, ces petits farceurs ajoutent « le temps ou la mort sont nos remèdes ». On pourrait habituer l'écolier à la clarté et à la concision dans les moments même où il exprime ses préoccupations véritables, ou lorsqu'il raconte l'aventure qui l'a ému. Ici, je veux seulement noter ce fait qu'alors, il se laisserait plus facilement aussi imprégné par l'atmosphère de son temps. Ignorant l'élocution traditionnelle que les écoles d'aujourd'hui enseignent d'avance, son esprit serait plus libre. Ayant le droit de ne pas parler des choses qu'il ne connaît pas, le droit de se taire quand il n'a rien à dire, il serait plus sincère. Vouloir que le peuple qu'on a la mission d'instruire soit un peuple de lettrés, cela est certes un noble souci. Mais je ne vois tout de même pas pourquoi les citoyens de tous les pays civilisés seraient tenus, à un âge où des exercices tout différents les sollicitent, de savoir rédiger, conformément au modèle de l'école, une lettre à un père absent, ou encore une tartine de 3 pages sur le retour des hirondelles, sur l'amour de la patrie, ou sur ce qu'on voit dans les yeux de sa mère. La perspective d'une société où l'on ferait moins de phrases qu'aujourd'hui et où l'on publierait moins de romans correctement écrits ne doit pas faire peur. Si tant d'avocats et tant de politiciens peuvent, une heure durant, dire avec chaleur des choses qu'ils ne pensent pas, ils le doivent sans doute, en partie, à l'éducation qu'ils ont reçue. Quant aux vrais poètes et aux vrais savants, ce n'est pas l'école qui les produit. Ce qui précède fait déjà comprendre que l'éducation moderne ne saurait donner de la vigueur aux intelligences. Mais il faut insister sur ce point. À l'école, tout est d'avance transposé dans le domaine de la phrase. C'est dans un décor invariable et sous une forme toujours la même que l'écolier acquiert les notions les plus diverses et par ce fait, l'attraction universelle, telle anecdote sur le bon Saint-Louis, la découverte de l'Amérique, le pluriel des noms terminés en hal, la fraternité humaine, et la préparation du sodium, tout a pour lui à peu près la même importance. Lorsqu'il apprend ses leçons, il voit tout cela dans le même plan, dans le plan de la page, si l'on peut dire ainsi. Car, en dépit des talents parfois réels de ses maîtres, l'enfant penché sur son cahier ou sur son livre est incapable de remettre les choses à la vraie place qu'elles occupent dans l'histoire de l'humanité. L'univers qui lui apparaît alors est sans relief et monotone comme un trop long discours. C'est un monde formel et vide que l'époque a fabriqué avec des mots. À l'âge de 17 ou de 18 ans, un écolier a déjà subi 8000 leçons environ, et le nombre des mots que ses maîtres ont débités devant lui est fabuleux. C'est qu'à l'école, on est pressé. Il y a tant de choses à apprendre, il y a tant de choses dont il faut avoir entendu parler. Tout pédagogue à qui l'on demandera pourquoi ces pareils répandent avec si peu de discrétion des vérités de tout ordre répondra qu'en enseignant l'histoire, la littérature, les sciences naturelles et les mathématiques, on ne se propose pas avant tout de fixer définitivement dans les mémoires des faits et des noms importants, mais que ces leçons nombreuses doivent donner à l'esprit de l'enfant certaines qualités durables. Or, ce malheureux ne voit pas que la quantité inouïe des connaissances que l'écolier doit acquérir empêche absolument celui-ci d'améliorer la qualité de son cerveau. Occupé à écouter ses maîtres et à prendre des notes, le bon élève en classe s'interrompt de penser. À la maison, il s'efforce d'apprendre ce que contiennent ses cahiers et ses livres. À ce propos, il faut dire qu'en dépit de tous les beaux discours qu'on a faits sur la liberté de l'écolier, beaucoup d'enfants à notre époque sont encore tenus de savoir répéter textuellement les phrases de leur manuel. En outre, et cela est également significatif, beaucoup de maîtres, la plupart, tolèrent chez leurs élèves cette passivité excessive. Que de fois j'ai observé des écoliers marmottant avec la virtuosité d'un curé disant une messe, le paragraphe qu'il devait peut-être réciter en classe quelques heures plus tard. Ce bredouillement éducatif, que connaissent sans doute la plupart des parents, prouve bien que je n'exagère pas. Or, si l'école voulait vraiment donner à l'enfant l'habitude de la réflexion, elle lui demanderait de dire ce qu'il a appris en termes différents, fût-il d'abord gauchement puéril de ce qu'il a trouvé dans ses cours. Ce serait le seul moyen de reconnaître s'il comprend nettement les paroles qu'il prononce. Mais beaucoup de pédagogues apprécient davantage le zèle et la docilité de l'élève que son intelligence. La pensée libre de l'enfant, ce serait l'imprévu, ce serait le désordre. En somme, l'enfant n'exprime presque jamais sa propre pensée lorsqu'il débite une phrase qu'il a lue dans un livre. En songeant à l'affreux verbiage qu'on exige de lui, on serait tenté de dire que le mot est un instrument pour grandes personnes. C'est la richesse de notre vie mentale qui détermine pour nous le contenu des mots que nous prononçons et de ceux que nous entendons. Pour l'écolier trop jeune, la plupart des mots qu'il doit savoir prononcer sont vides. Il arrive, parfois, qu'en nous faisant découvrir une relation encore insoupçonnée entre deux ordres de phénomènes, ou simplement en nous indiquant un seul fait nouveau, on nous émeuve comme si cette révélation devait modifier notre vie. Des jugements portés, naguère, mille expériences que nous avons faites se présentent tumultueusement à notre esprit. Nous pressentons qu'un ordre nouveau va s'organiser dans notre pensée et que désormais, nous ne considérerons plus les choses du même point de vue. Eh bien, ce ne sont pas de ces faits émouvants qu'on raconte à l'écolier, ou plutôt lorsqu'on lui enseigne quelques faits qui, pour lui, pourrait être riche en conséquences, on passe trop vite au sujet suivant pour qu'il éprouve l'égranlement salutaire dont je parle. On le prive de la brusque vision où lui serait apparu un peu de la merveilleuse beauté du monde. La vérité nouvelle qu'on lui enseigne ne pénètre pas jusqu'à son cœur. Elle est pareille aux mille vérités qu'il a déjà apprises et à toutes celles qui suivront. En d'autres termes, on laisse ignorer à l'enfant ce qui précède la vérité. La lutte plus ou moins longue et plus ou moins pénible que l'homme soutient contre les choses qu'il veut arriver à connaître. Tout ce qui, dans cette lutte, entrave ses efforts et tout ce qui pourrait l'aider. On ne lui signale pas la déception inévitable de l'humanité qui croit avoir établi un accord durable entre ses notions anciennes et ses expériences sans cesse renouvelées. Du point de vue de l'activité humaine, l'écolier verrait de l'unité dans l'histoire et dans le monde. Mais son seul devoir est de retenir des propositions monotones et ennuyeuses. Aussi ignore-t-il qu'elles n'ont pas toutes la même importance. Il ne sait pas qu'elles diffèrent beaucoup les unes des autres quant à la nature du sentiment qu'elles devraient éveiller en lui. Il ne reconnaît pas dans telle vérité qu'il pourrait énoncer avec la plus sereine certitude une arme qui lui permettrait de convaincre les autres ou de résister à leur argumentation. Telle autre vérité ne s'impose pas avec la même évidence, mais elle est contrôlable, elle a été contrôlée mille fois. Celle-ci, par sa nature même, est des plus contestables. Celle-là, simple hypothèse, a été vérifiée par un trop petit nombre de cas et l'on devra sans doute restreindre sa généralité. D'autre part, il est des vérités concernant par exemple la société future qui n'expriment pas autre chose que les aspirations d'un groupe de nos contemporains. Prophéties d'une réalisation plus ou moins probable, elles sont proclamées avec passion par ceux dont elles satisfont la sensibilité. Si telle de ces affirmations passionnées peut stimuler notre enthousiasme, sachons reconnaître que c'est notre ardeur seule qui lui donne de la force, et n'essayons pas de la justifier en invoquant la logique universelle. L'affirmation contraire est tout autant fragile, et il est bon de savoir que ce qu'un savant formule n'est pas toujours le résultat de la science. Il est encore de soi-disant vérités qui ne sont que des conventions ou de simples moyens mnémoniques. Enfin, il en est d'infiniment précieuses qui modifient la conduite et toute l'existence de ceux qui les ont senties. Eh bien, toutes ces vérités, si dissemblables par leur nature et leur importance, ne pénètrent pas à des profondeurs très différentes dans la pensée de l'écolier. Pour lui, elles expriment indifféremment des résultats qu'il faut connaître pour mériter une note suffisante. En résumé, l'école ne fait pas comprendre à l'enfant l'évolution universelle. Elle lui inculque la croyance en l'immobilité. Tel résultat qu'elle lui enseigne, parce qu'ils ont d'isolé, d'immuable, d'absolu, revêtent en quelque sorte un caractère sacré. Il ne sait pas que la nécessité des choses d'à présent est purement historique. Et, de la sorte, l'éducation qu'il a reçue explique le respect stupide et lâche que l'homme ressent pour l'actuel. Lorsqu'on a suggéré à l'écolier quelques buts à atteindre, on ne le laisse pas libre d'employer, dans ce dessein, des moyens d'abord grossiers, qu'il perfectionnerait peu à peu. Tout de suite, on lui enseigne une méthode perfectionnée, qu'il applique sans la comprendre. Ce n'est pas lui qui dirige sa besogne, il est un manœuvre qui obéit aveuglément à des ordres supérieurs. Ce qu'il éduque, réduisent ainsi à zéro le rôle de sa volonté. À ce propos, je veux noter encore ce fait qu'on donne aux écoliers, aux jeunes filles surtout, tant d'ordres et tant de recommandations qu'ils en arrivent à ne plus oser faire que ce qui est expressément permis. Ainsi que je l'ai constaté bien des fois, lorsque, sous la surveillance du maître, les élèves rédigent une composition en classe, il en est qui, voulant sécher la page qu'ils viennent d'achever, lève la main et demande respectueusement « Monsieur, puis-je prendre un papier buvard dans mon pupitre ?» On les soupçonne si fréquemment de tricherie que des jeunes gens de 16 ans, même dans ce cas extrême, n'osent pas agir sans une autorisation spéciale. Durant les 7 ou 8 ans qu'il passe à l'école, l'enfant n'apprend pas à se connaître. On ne lui donne pas l'occasion de dépenser son activité dans des directions variées. On ne lui révèle pas ses propres forces. Aussi ignore-t-il le plus souvent ce qu'il serait capable de faire avec facilité et avec plaisir. Il ne sait pas que dans telle direction il ferait des progrès rapides et que dans tel domaine il rencontrera des difficultés peut-être insurmontables et de l'ennui. Il ne connaît ni ses goûts ni ses aptitudes. Il sera peut-être capable de pérorer un quart d'heure sur les différentes formes de l'activité humaine. Mais le jour où il se demandera « Que vais-je devenir ?» il hésitera avec indifférence entre la profession de médecin et celle d'avocat. Cependant, que tel de ses camarades, moins fortuné que lui, se fera bureaucrate, sans savoir qu'il eût pu devenir un ébéniste très habile. En définitive, l'école a sur l'enfant une influence profonde. Elle le fatigue, physiquement et moralement. Elle le fatigue parce qu'elle cultive en lui une faculté unique, celle de composer ou simplement de retenir des phrases. S'il est un bon élève, il contractera peut-être pour toujours l'habitude des définitions et des énoncés satisfaisants. Les livres, les gens et les peuples qu'il connaît, comme d'ailleurs ceux qu'il ne connaît pas, tout sera pour lui prétexte à formule. Il résumera en quelques mots définitifs tout ce qui arrêtera son attention. Il le fera parfois d'une manière piquante. Mais cette habileté ne suffira pas pour faire de lui un homme. Sa manie ternira pour lui la beauté du monde. Réduire les choses et les êtres à des mots, c'est le plus souvent les réduire à rien. N'ayant pas vécu en contact avec la nature, l'écolier ne soupçonnera pas plus tard la joie qu'il aurait à l'étudier. Ayant trop longtemps connu l'inaction et l'ennui, il ne saura pas aimer et agir. Il énoncera sans peine de nobles règles de vie, mais il sera sans vitalité. À 20 ans, l'intelligence pauvre et le cœur vide, au lieu de s'enthousiasmer pour quelques belles illusions, il démontrera, par un raisonnement, la vanité de tout. J'imagine que certains lecteurs m'interromperaient volontiers pour me dire que j'exagère et que l'influence de l'école n'est pas aussi pernicieuse que je veux bien l'affirmer. Le fait est que, s'il faut en croire les résultats que l'enquête faite par la Revue Blanche, numéro du 1er juin 1902, bien des personnes, en dépit de l'éducation qu'elles ont reçue, conservent une intelligence remarquable et une rare originalité d'esprit. Mais ce qu'affirment beaucoup de ceux qui ont répondu à l'enquête en question, c'est que les innombrables leçons reçues jadis ont eu sur eux une influence à peu près nulle. Or, si l'on considère que ces leçons se comptent par milliers, qu'elles n'ont eu pour ceux auxquels elles s'adressaient ni bon ni mauvais effet, on peut sans aucune exagération déclarer que ce résultat est mince. Oui, il y a des écoliers qui ne sont pas influencés par ce qui se dit en classe. Ce sont des paresseux, des élèves distraits, des cancres. Leur esprit est constamment ailleurs. Et pendant que le maître résout au tableau noir une équation du second degré, ils se demandent peut-être comment ils termineront le sonnet destiné à la dame de leur rêve. Mais si ces écoliers conservent sur la plupart des sujets du programme une bienheureuse ignorance, il n'en est pas moins vrai qu'à l'école, ils s'ennuient. Durant des années, plusieurs heures par jour, ils ne sont occupés qu'à attendre la fin de la leçon. Il est difficile d'admettre qu'une telle éducation puisse être sans influence sur eux. L'école, certainement, diminue leur joie. Elle leur vole une partie considérable de leur jeunesse, car tout ce temps perdu durant lequel elle les oblige à l'inaction, ils auraient pu le consacrer à vagabonder dans la nature, à s'émerveiller, à vivre. Et ainsi, quand les effets de l'éducation moderne paraissent nuls, ils n'en sont pas moins détestables. ce n'est pas le moment d'indiquer ce que pourrait être une éducation bienfaisante. Mais si l'on écarte cette hypothèse que l'école, consciente de son œuvre, s'applique à rendre les esprits respectueux, on peut se demander en quoi consiste la faute essentielle des éducateurs modernes. Et c'est sur ce point que je voudrais revenir encore une fois. Le pédagogue d'aujourd'hui souligne plus fortement et plus fréquemment la différence qu'il y a entre les gens instruits et les autres que celle qui sépare les êtres sains des malades, les intelligents des imbéciles ou encore les lâches des courageux. Cette pitoyable religion du savoir suffirait pour expliquer la plupart, sinon la totalité des erreurs de l'école. En effet, si des écoliers de 9 ou 10 ans ne peuvent pas consacrer chaque jour 2 ou 3 heures à des jeux, à des exercices physiques ou à des travaux manuels, c'est que, dira-t-on, la tâche du maître est longue et le temps est court. Si, à l'école, l'enfant doit presque sans cesse, et cela durant des années, rester assis et inactif, avec le devoir constant d'écouter, c'est que l'on s'imagine qu'avant toute chose, il faut fixer dans sa mémoire un très grand nombre de vérités. C'est pour la même raison que l'on fait abstraction de ses goûts et de ses aptitudes. Tout le monde doit savoir que Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, que Pékin est en Chine, et que le mot « attrapé » s'écrit avec un seul « p ». La même raison expliquerait aussi que les écoliers, dès leur 8e année, s'instruisent dans une salle monotone, sous la direction d'un spécialiste, muni de l'érudition réglementaire, plutôt que de vagabonder d'abord longtemps parmi les êtres et les choses, en compagnie d'un enthousiaste qui n'aurait d'autre désir que de leur faire aimer l'activité et la vie. Et c'est encore parce que la dose de science fixée par les programmes est jugée indispensable pour tout homme d'aujourd'hui, c'est parce que cette dose est obligatoire que les maîtres doivent consacrer presque autant de temps à interroger leurs élèves dans le seul but de savoir quelles notes ceux-ci méritent, qu'à augmenter effectivement leur savoir, qu'à fortifier leur intelligence. Enfin, c'est parce qu'à l'école, on est pressé que l'enfant passe d'ordinaire d'un sujet à un autre avant d'avoir acquis sur le premier des idées nettes, avant qu'il ait pu soupçonner la beauté qu'il y a dans les choses dont on l'entretient, et sans jamais comprendre la signification générale que donne à tout fait d'histoire ou de science la destinée de l'homme sur la terre. Savoir, pour la plupart des gens, redisons-le, ce mot signifie tout simplement savoir répéter. Eh bien, parmi les innombrables vérités qu'on enseigne à l'enfant, il n'en est presque aucune qui puisse, par ce seul fait qu'il aura retenu et qu'il saura, le cas échéant, l'énoncer à son tour, acquérir pour lui une valeur réelle. Les écoliers apprennent à lire, à écrire, à effectuer quelques calculs simples, ce qui est bon sans doute à tous égards. Mais en outre, leur maître consacre des milliers d'heures à les munir d'une érudition absolument vaine. Elle est vaine parce qu'elle est superficielle. C'est un mince vernis que le temps effacera bientôt. Que l'école consente à ne plus instruire ses élèves jusqu'à l'écœurement. Qu'elle mette au rancard son stock formidable d'empereurs, de capitaines, d'échinodermes, de guerriers illustres, de règles grammaticales, de lois physiques, de grands écrivains, de théorèmes et de sulfocarbonates. à cette condition seulement. Les écoliers auront le temps de vivre, de jouir de leur jeunesse, d'admirer, de questionner et d'apprendre à connaître la nature et l'œuvre des hommes. Plutôt que d'accroître dès les premières années l'érudition de l'enfant, que l'école développe autant que possible ses aptitudes. Nos aptitudes sont en quelque sorte pour nous de la science à l'état potentiel. Quand nous les exerçons, quelque chose de durable s'organise au fond de notre être. En habituant l'écolier à s'exprimer avec clarté et précision, en le stimulant pendant des années à découvrir de petites différences et de profondes analogies, en l'accoutumant à distinguer les paroles qu'il comprend nettement de celles qu'il ne comprend guère, en lui faisant comprendre dans quel cas il peut affirmer ou s'affirmer, et dans quel cas il doit dire « je ne sais pas », en l'exerçant aussi à reconnaître ce qu'il y a d'insuffisant dans certaines argumentations, en lui donnant le goût, le besoin de l'activité, en fortifiant ses muscles, en développant l'adresse de ses doigts par de fréquents travaux manuels, on accroît d'une manière définitive sa puissance. On embellit toute sa vie. En poursuivant ce but, l'école serait sûre de ne pas compromettre l'avenir de ses élèves qui reste pour elle absolument indéterminé. Sans doute, la plupart de ceux-ci seraient ensuite dans l'obligation de se spécialiser. Mais, ayant été chargés d'énergie et d'enthousiasme durant leurs premières années, ils sauraient résister à la déformation qui menace tous ceux qui, par une besogne invariable et monotone, doivent gagner leur pain de chaque jour. L'éducation moderne, comme nous l'avons vu, diffère de celle-là. Le pédagogue actuel, comme celui d'autrefois, a la défiance de la vie pour tout ce qu'elle a de spontané et d'imprévu. Les élèves qu'il a formés ont la mémoire enrichie de procédés commodes et de vérités salutaires. Ils n'ont pas connu l'effort de penser. Ils possèdent la réponse à 1000 questions qu'ils ne se sont jamais posées. À l'école, l'enfant perd peu à peu sa confiance en lui-même, car sans cesse on lui a reproché ses imperfections. On a toujours laissé ses forces inactives. On a constamment contrarié ses vraies tendances et ses vrais besoins. À l'avenir, il attendra des autres, de quelque autorité humaine ou divine, la vérité ou le bonheur. Il a fait en classe l'apprentissage de la docilité. Sans doute, ceux qui l'ont préparé à la vie ont voulu lui donner le recueil complet des recettes pour se tirer d'affaire, mais ils n'ont pas prévu tous les cas. Et le jour où le mécontent aurait besoin d'initiative et d'audace, il reste inerte. De son être diminué, rien ne jaillit. L'école ne veut pas que l'enfant soit simplement l'enfant. Elle veut qu'il parle le jargon du spécialiste et elle en fait la caricature de l'homme. De même que de pauvres petits êtres de 9 ou 10 ans apprennent au collège l'ignoble parodie de l'amour, les écoliers apprennent en classe l'affreuse parodie de la pensée. Durant des milliers d'heures, l'enfant reste tranquille pour ne pas être puni. Pour mériter son diplôme, il apprend un tas de choses ennuyeuses. Et constamment, au lieu d'exercer ses propres forces, il retient ce que les autres ont fait et ce qu'ils ont dit. Si de la sorte, l'éducateur moderne ne peut préparer des générations d'enthousiastes, il forme par contre d'excellents employés qui jusqu'au bout sauront faire leur devoir. Mais le sentiment du devoir ne sera pas en eux une force qui maintiendra droite leur attitude. Il se confondra toujours avec la crainte de désobéir. Sans élan, sans ardeur, sans vie, on les fera facilement s'incliner devant l'autorité. Henri Rohr, Da, Vand et Singa.